ce cours dédié pour la version de l'âme de Karen Rutlein, c'est qu'on a les bracha de mémoire bénie. Amen. La question de Élie.
Alors, alors on dit que la Torah, elle soutient le monde, c'est seulement la Torah qui nous protège. Alors, comment expliquer à un Baal Tshuva, par exemple, qui vient de commencer à rentrer dans la Torah, que comment on l'explique à des religieux qui se font poignarder après du côté?
D'accord. C'est pas seulement Baal Tshuva, tout bon juif, d'accord, qui n'a pas encore reçu les réponses. Si je fais la Torah, je suis censé être protégé, et on voit souvent que c'est le contraire. Tov, la réponse est très simple. Nous voyons de l'image générale qu'un tout petit morceau. On ne sait pas qui nous sommes. Personne n'a vu sa propre âme, qui il est vraiment. Il ne sait pas les réincarnations de qui il est. Et on ne sait pas l'impact des actes que nous faisons, qu'est-ce qu'il est dans le monde à venir. Et le monde à venir, il est éternel. Donc ça veut dire que ce monde-ci, par rapport à l'éternité, ça a une valeur presque nulle. Donc comment nous, qui ne voyons que ce monde-ci, pouvons-nous comprendre la justice de Dieu en manquant pas 99% de la carte, des éléments, en manquant des milliards de mille, on n'a que 0,00 infini 1, d'accord, 0,0 presque infini 1 d'éléments, avec ça tu veux comprendre le tout? Impossible. Une chose est claire, Dieu est bon, Dieu est juste, et tout ce qui nous arrive est toujours la meilleure solution possible qu'il aurait pu y avoir pour nous, même s'il est terrible, même si c'est une Shoah, impossible que Dieu fasse une chose qui soit, ça se peut que c'est très mauvais ce qui se passe, je ne vais pas dire que la Shoah elle est bonne, c'est très mauvais, mais c'est la meilleure des solutions qu'il pourrait y avoir dans ce type de configuration. Donc pourquoi quelqu'un meurt? Pour plusieurs raisons à cela. Des fois il doit mourir ce même jour. Alors au lieu qu'il meure bêtement écrasé par une voiture, alors il meurt à Kedush Hashem. Il meurt en sanctification du nom de Dieu, ce qui est un mérite énorme. Le Rabbi Chaim Wasserman, c'était le élève, le plus grand rabbin de la génération au début du siècle, s'appelait le Chafetz Chaim. Et il est décédé en 1933. Il habitait Radin, en Biélorussie actuelle, la Russie blanche. Et il avait un élève qui était son élève favori, il s'appelle le Rav Elchanan Wasserman. Que Dieu venge son nom. Que Dieu venge son sang. Et un jour, le Rav Elchanan Wasserman sort du bureau du Chafetz Chaim, tout ébloui. Le shamash là-bas, le bedeau, la personne qui s'occupe, le secrétaire, il dit qu'est-ce que vous avez? Non, je ne peux pas te raconter. Alors là, c'est ce truc à ne pas dire. Il a verrouillé dans son collimateur et a dites-moi. Bon, à la fin, il lui dit écoute, voilà, je te dis, il m'a dit que j'aurais le mérite de mourir à Kiddush Hashem, de mourir tué en tant que juif. Parce qu'on est juif. Quelqu'un est tué parce qu'il est juif, il est mort à Kiddush Hashem. Peu importe si le religieux par le jeu qui il est, du moins qu'il est juif. Il est tué parce qu'il est juif, il est mort à Kiddush Hashem, et c'est un niveau extrêmement haut dans la Mabah, un des plus hauts auquel on puisse accéder. Ne pas croire qu'à cause de cela, tous les péchés sont effacés. Ça efface beaucoup, mais c'est pas un mec créant qui était mort à Kiddush Hashem. Forcément, il arrive à la Mabah et tout va bien dans le meilleur des mondes. Il aura un grand mérite. Il aura aussi des factures pour réparer les choses pas bien, oui.
Dans ce cas-là, la réponse à donner lorsque les gens posent la question « Pourquoi la Shoah, c'est terrible ?» Il faudrait répondre « Non, c'est extraordinaire !» La Shoah, c'est extraordinaire. Tout le monde est mort à Kibush Hashem. C'était le meilleur des. Donc, pourquoi est-ce qu'on donne pas cette réponse?
C'est mon col.
C'est certainement une très bonne réponse. Elle est juste. La question, elle est, pourquoi Hachem fait-il un chilul Hachem aussi grand, une profanation de son nom aussi grande, que les peuples vont voir que le peuple qui est censé être le peuple de Dieu, le fils aîné de Dieu, un tiers de son peuple est tué comme ça, comme pire que des moutons à l'abattoir. Et non seulement les peuples.
Ça, c'est plus mon chilul Hachem, c'est mon chilul Hachem.
Il y a un son moi qui douche Hachem, c'est clair. Mais maintenant, Hachem, il a aussi son nom dans le monde. Tu comprends? C'est clair que le nom de Dieu, il a été extrêmement profané. Ne serait-ce que les millions de juifs qui profitent de façon légitime ou non légitime de cette bonne excuse. Si Dieu existe, pourquoi il fait la Shoah? C'est la question. Première question, est-ce que Dieu existe? Réponse, oui. Ah, pourquoi la Shoah? Deuxième question. Ça vient tout de suite. Donc, si Dieu a supposé le pour et le contre, pour venir, il a envoyé une Shoah. Hein. C'est clair qu'il a vu beaucoup de pour. Je ne sais pas si je rentre dans le sujet maintenant. C'est un sujet très important. Il faut qu'on en parle une fois un peu plus. C'est très délicat parce que des réponses rationnelles, il y en a. Mais c'est un sujet tellement, qui touche tellement de gens, auxquels les descendants de ceux qui sont décédés dans la Shoah ou même qui ont survécu à la Shoah sont tellement... J'ai eu dans mes séminaires trois fois des gens qui ont vécu les camps. C'est pas facile. On ne pouvait pas rappeler que Dieu existe. C'était comme sur des roulettes. Ils ont aimé, ils ont beaucoup apprécié. Un a dit, moi je continue à manger mes cuisses de grenouilles. C'est un type qui chaque nuit, sa femme a témoigné, chaque nuit il se lève, il se met à hurler. Chaque nuit depuis 60 ans, il se met à hurler. Il a beaucoup apprécié, mais bon, c'est pas dans ses capacités aujourd'hui affectives de pouvoir faire tchouva, c'est trop fort. Mais il a aimé, il a apprécié. J'en ai eu d'autres aussi. Leurs enfants et petits-enfants, c'est bien plus dur, c'est terrible. C'est connu, les générations post-Shoah sont plus dures que ceux qui ont vécu la Shoah. Donc, vu que ça réveille tellement l'affectivité, d'accord, le côté affectif, les gens sont très sensibles, et comme m'a dit une fois un descendant de Ashkenaz, de gens qui ont un type religieux, il m'a dit, on ne peut pas parler de ça. C'est malpropre déjà de vouloir parler de la Shoah. On ne parle pas. C'est trop, ça nous touche trop. C'est un sujet, on ne parle pas. Et j'entends, il faut considérer qu'il y a des sensibilités. Alors on pourrait en parler, mais le fait d'en parler, c'est quelque part, tu règles le problème. Et si le problème n'est pas réglé, d'accord, on ne peut pas dire le problème, la Shoah, il est réglé. C'est trop dur encore à supporter. Donc on ferme la parenthèse, et on revient à notre question. Donc première chose, alors après Echal Masserman, qu'est-ce qui se passe avec lui pour finir? Lui, il est parti en Amérique, juste avant le début de la guerre. Et pour prendre de l'argent pour sa yeshiva, il avait une yeshiva à... Oh, j'ai oublié le nom, pas Braverman. Bon, peu importe. Et tout le monde sentait que ça allait sauter en Europe. On a dit, vous rentrez en Europe. Il dit, écoutez, la balle avec mon nom, elle peut arriver aussi ici en Amérique. Si je dois rentrer, je dois rentrer. Point barre. Ce serait intéressant il a écrit un livre, quelques petits livres super passionnants, avant la Shoah, sur la Shoah. Avant la Shoah. Il a écrit ça quelques années avant, mais ça a paru en été 38. Complètement marim, il y a le parti qui s'appelle Ikvitat Meshecha. Passionnant. Là-bas, il écrit entre autres. Beaucoup de choses. Quand on va se rapprocher des goïms, Dieu a fait qu'il y a une différence entre les goïms et les juifs. On veut se rapprocher, alors si nous on ne s'éloigne pas comme la Torah a demandé, alors eux nous éloigneront. Et en 1870 environ, à Nuremberg, des rabbins réformistes ont écrit un Shulchan Aruch qui autorisait d'après la Torah de se marier avec une non-juive. Ce n'est pas écrit noir sur la Torah comme par exemple avec une non-juive. C'est marqué avec les sept peuples d'Israël dans lesquels on viendra conquérir. Chazal ont dit, c'est clair que c'est avec tout le monde, d'accord? Mais c'est Chazal. Attends, les réformistes, ils ne reçoivent pas, ils n'acceptent pas les dires de Chazal. Donc voilà, donc c'est permis. Les rabbins à l'époque, ils ont dit, un Shulchan Aruch que donc une chose pareille, de même endroit à Nuremberg sortira une épée vengeresse. Comme ça, ils ont écrit ça quelques dizaines d'années auparavant. En 1937, ont été éditées les lois de Nuremberg, de ségrégation raciale nazie, interdisant à un Allemand d'avoir une petite copine juive, interdisant à une Allemande d'avoir un petit copain juif. Eux-mêmes ont interdit ça. Alors il y a là-bas, entre autres, une prophétie qu'il y a dans Yechezkel, je dévie un peu du sujet, mais c'est quand même assez intéressant, Yechezkel 20. Lorsque vous dites, soyons comme les autres nations, pour adorer le bois et la pierre, on va être comme les goïms, n'ayez qu'à goïms. Dieu répond, cela ne se réalisera pas, si ce n'est d'une main puissante, d'un bras étendu et d'une colère débordante, je serai votre roi. Vous verrez c'est qui le boss dans ce monde, vous ou moi. Vous êtes comme les goïms, vous verrez. Une main puissante, alors Rav il explique. Ça commence par une main puissante. Moi je commente, c'est loi de ségrégation raciale de Nuremberg, vue de cristal, ça commence à aller pas bien du tout. Si on fait tchouva, ça ira pas plus loin. Si on continue à avoir la nuque raide, on continue à s'assimiler à qui mieux mieux, viendra la deuxième étape, bras étendus. Les premiers camps de concentration sont encore avant la guerre, mais les personnes déplacées comme ça, Polonais, tout ça, il y avait déjà quelques petits camps par-ci, par-là. Le bras étendu, c'est plus que la main. Et si on continue à persister dans l'erreur, viendra la colère débordante. Colère débordante, ça veut dire ça déborde, ça va trop loin. Bon, on ne peut pas dire sur Hachem que ça va trop loin, mais c'est une façon de parler. Et le Rav écrit, nous ne savons pas auquel des trois degrés nous sommes arrivés aujourd'hui. Ça va mal. Hitler, déjà en 1937-38, on entend parler de lui, c'est pas un bon ami des Juifs. Ça va mal. Est-ce que c'est le troisième degré? Alors ça va mal, mais bon, c'est supportable. Ou bien sommes-nous peut-être qu'au premier degré? Et si on ne fait pas tchouva, dit-il, viendra un deuxième degré et un troisième degré. Et dit le futur proche, nous le dira. Le Rav est rentré à sa yeshiva en Lituanie. Il était dans le ghetto de Kovno. Kovno, Vilna, c'est le même endroit. Et en 1941, il a été attrapé par les nazis et fusillé. Lui et sa yeshiva.
Ils ont été tués dans les camps.
On a vu qu'il était fusillé là-bas.
Il y a maintenant un examen du Kovet Shuri, tout ce qu'il leur a dit avant de montrer se faire
régler. Ouais, mais moi j'ai une version où il était fusillé. Bon, peu importe, un des deux, il a dit un discours extraordinaire aussi. Qu'est-ce qu'il leur a dit là-bas?
Il faut mourir,
Shem Shamaï, voilà. Ah, ça répond à ta question maintenant aussi. Il leur a dit maintenant, on va faire une fois de mourir avec Kiddush Hashem. Quand on fait un sacrifice, une seule pensée, quand on fait une mitzvah, si tu ne penses pas ce qu'il faut faire, la mitzvah elle est faite. Je mets les tchilines. Je pense à mes vacances à Honolulu. Bon, j'ai fait la mitzvah. D'accord. Je mange la matzah le soir de Pessah. Je pense maintenant à mon compte en banque. J'ai fait la mitzvah. Dans les sacrifices qu'il y avait au temps, c'est pas comme ça. Si quelqu'un maintenant, un Kohen, comme il faisait le sacrifice, devait penser six pensées. Pour qui? Pour quel corban? Pour quand? Comment? Beaucoup. Si une pensée n'était pas adéquate, bien que l'acte ait été fait, l'animal a été égorgé comme il faut bien, le sacrifice est nul et non avenu. Donc le rabbin dit à ses élèves, on va maintenant faire le sacrifice de nos vies. C'est un grand mérite. On doit faire maintenant, on doit penser. Donc on meurt à Kiddush Hashem, et que par le mérite de notre mort, on va faire en sorte qu'Hitler n'arrive pas à New York. Le Rav, qui a prédit la guerre, il a dit un truc qu'on n'a jamais pensé. Qui aurait pu penser que Hitler viendrait à New York? Ça n'existe pas là dans notre façon de voir la Seconde Guerre mondiale. Il était à la France, après Vichy, ouais, c'est arrêté, Angleterre, machin, tout ça. Et pourquoi pas? Si les Américains ont réussi à faire un débarquement en Normandie le 6 juin 1944, et quel le mur de l'Atlantique, c'est un mur de béton et de plomb. Ils ont réussi à pourfendre cela, pourquoi pas? Hitler aurait pu faire maintenant un débarquement à New York sur les plages clean de sable, sans plomb et sans béton, et à être avec tous les Juifs de New York. Et ouais. La pensée du Rav avant de mourir, par ce mérite-là, on va empêcher Hitler. On ne se rend pas compte de ce truc-là. On ne sait pas comment. Nous, on a toujours une image très très petite. D'accord, on ne sait pas. Les gens disent, si on avait fui l'Europe en Israël, il n'y aurait pas eu la Shoah, gros bêta. La Shoah s'est arrivée ici, d'accord. Par miracle, Rome a été arrêtée en Égypte. Miracle extraordinaire, on en parle dans les livres, qui, quoi, comment, pourquoi, d'accord. Par quel miracle et pourquoi? Juivement, d'accord. Mais Hitler, Hachem n'a aucun problème d'amener Hitler ici. Aucun problème. Donc le problème, c'est que nous, on voit toujours une image qui est petite. On ne voit pas tout ce qu'il aurait pu y avoir et comment. Donc première chose pour laquelle quelqu'un peut mourir tué, c'est pour qu'il nous cherche à faire la grande mitzvah. Il aurait pu mourir bêtement dans son lit. On dit que le Beit Yosef, l'auteur de Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il priait d'avoir le mérite de mourir à Kiddush Hashem. Je n'ai pas encore osé prier à ça à Hashem. Il faut du courage quand même. Mais c'est certain que c'est mieux de bêtement mourir dans ton lit. Ah, tu meurs poignardé, Hashem, je mors. D'accord. On ne veut pas ça. Mais si tu dois, à la même date, tu as un mérite énorme. Ça, c'est première réponse.
Est-ce que quelqu'un qui étudie la Torah, il a plus de chances de mourir
qu'un Kiddush Hashem? Non, Hashem, c'est les contes d'Hashem.
Tu parlais du Beit Yosef, mais Joseph, c'est quelqu'un qui avait un magide, et ouais. Dit avec un ange, ça fait une conscience extrême.
Ouais, je te dis. Et moi-même qui te le dis, j'ai pas osé prier là-dessus, j'ai même acheté un chamishmor, d'accord. Mais je te dis, rationnellement parlant, c'est vrai. Ou le même jour, tu meurs bêtement dans ton lit, ou tu es, qu'est-ce qui est mieux? Ça fait mal un peu quand le poignard y rentre, mais je sais pas si on se rencontre tellement longtemps. D'accord. Hein? Ouais, je sais pas si on s'en rend compte. Mon fils est poignardé près du cœur à l'âge de, il y a une dizaine d'années, 12 ans. Il s'est même pas rendu compte. C'est après ce coup, il se battait avec quelqu'un, il a vu que le type l'a poignardé, il sentait que ça coulait chaud ici. Alors il a décroché du combat et par miracle, il est vu en Baruch Hashem, un vrai miracle que Hashem a fait à mon fils, Baruch Hashem.
C'est une astrale. Sinon, on prie moi en quitte de Hashem, par exemple. C'est égoïste.
Tu devais mourir de toute façon. Quelqu'un, il doit mourir à la date du 6 juin 2018, d'accord ? Hachem, maintenant, il sait ce qu'il fait, d'accord ? Donc, s'il décide maintenant que quelqu'un doit partir, d'habitude, c'est le moment où il devait partir de toute façon. C'est rare qu'on raccourcisse sa vie de quelqu'un sans que Dieu ait voulu, d'accord ? C'est pas une chose qui est possible. Il a fini son job. Donc, où il part ? Bêtement dans son lit. Tranquillement dans son lit, on va dire, où il part maintenant en gagnant encore un truc très grand. Et je te dis, la réaction du Rav Erhal Wasserman, c'est un grand cadeau. Oui.
La famille, elle peut remuer ce Rav-là à sa famille. Voilà, mais nous, de nos jours, une femme de la famille, ils sont pas. Ils connaissent pas ça, ils pensent comme nous à la base, quoi. Ils se disent, ah, la Shoah, le truc, machin. Si on meurt comme ça, ils vont dire, ah, il a été poignardé, machin, ils sont capables de déprimer toute la route.
Et si elle était écrasée par une voiture?
Ils se disent que c'est pas pareil.
C'est pas pareil?
C'est le hasard,
et
même là.
Ok, d'accord, je suis d'accord avec toi. Je veux dire, on dit en blaguant comme ça, lorsque Dieu a créé le monde, il a donné des rôles à tous les anges. Il avait tous ces anges-là. Bon, toi, tu seras l'ange, tu vas mettre au monde des bébés. Toi, tu vas amener la parnassa. Toi, tu es l'ange de la mort. Oh, c'est pas sympa. Tout le monde va m'accuser sans cesse. T'en fais pas, personne ne t'accusera jamais. Sous un terroriste, ou un accident de voiture, ou un cancer, ou une crise cardiaque, jamais l'ange de la mort.
Il y a un
Midrash qui dit ça. Bon, très bien, encore mieux. Ça veut dire que les gens simples ne vont pas jamais voir c'est la main de Dieu, point barre, il n'y a pas à discuter. Ils vont voir, on aurait pu se sauver si le médecin avait été plus intelligent, on aurait pu faire s'il avait été regardé sur la route, il n'aurait pas été écrasé, s'il n'avait pas été alarmé, il n'aurait pas été tué. C'est pas comme ça que ça se passe. On ne peut pas échapper à Hachem. On ne peut pas échapper à Hachem. Hachem, c'est ce qu'il fait. Si maintenant il sait que quelqu'un doit partir, ça peut être que la meilleure solution possible imaginable pour lui. On ne doit pas commencer à maintenant chanter de joie qu'il est mort parce que Dieu a fait quelque chose de bien pour lui. On doit pleurer parce que c'est comme ça que Dieu, c'est pas honorable pour le mort ni pour nous d'être heureux que quelqu'un est parti. On est triste de son absence. On doit savoir dans la tête que Hachem a fait des choses pour le bien. C'est clair. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, ça, je parle maintenant pour lui-même. Maintenant, pour Am Israël. Nous sommes tous, Am Israël, nous sommes tous une même entité. Pour comprendre ça, c'est une base des plus basiques du judaïsme. On a 5 parties d'âme, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. La plus haute s'appelle Yechida, s'appelle unique. Elle est unique à tout Am Israël. Du premier au dernier. C'est pour ça qu'on est très sensible au sort de notre peuple. Comme je raconte souvent, on a parlé de la Shoah auparavant. T'as pas un juif qui pense pas à la Shoah au moins une fois par jour, une fois par minute, une fois par heure, une fois par jour, une fois par semaine, la moyenne au moins une fois par mois. Au moins du moins le type hyper assimilé déjà, d'accord ?
Ouais, on vit avec les autres juifs.
Pardon ?
Avec des autres juifs,
alors. Compris.
On vit avec les autres juifs.
Alors ?
Forcément, il y en a un qui a été touché par ci, par
là. Ok, vis avec des gars. Un juif qui sait qu'il est juif. Donc il n'est pas assimilé. Un juif qui sait qu'il est juif, la Shoah au moins une fois par mois. Il y pensera.
Mais ça le touche parce qu'il s'est dit, bon, il y a des gens qui sont morts parce qu'ils étaient comme moi. Comment ça se fait?
Ah, bon, ok, il y pense. Il est touché par ça.
Je pense pas qu'il est touché en son fort intérieur.
Il ne fait pas pleurer. Mais
non, ça, c'est sûr.
C'est une chose qu'il a dans la tête, il y pense. Je prends l'exemple des Russes. Combien de Russes sont-ils morts durant la Seconde Guerre mondiale? Plus, 20 millions. Au moins 20 millions. Plus que 3 fois plus que nous. Tu me dis, ouais, ok, mais proportionnellement, c'est pas la même chose. Je suis d'accord. Et aussi, c'est différent, parce que Hitler, il a un programme de c'est pas en guerre qu'il a tué des gens. Il est parti dans les camps, gazer des innocents, des femmes, des enfants, de façon préméditée, un peuple, un vrai génocide. Ok, je suis d'accord, c'est pas comme la Shoah. Mais quand même, on va voir un Russe aujourd'hui, au moins un Russe, qui s'est fait un petit guili-guili dans le cœur, 20 millions de Russes morts il y a 70 ans. Putain, pas un seul. Mais ils n'en ont strictement, absolument rien à faire. 20 millions de Russes morts à 70 ans, j'en ai rien à faire. Rien. Prends ton copain français, Martin Dupont, comme je raconte souvent cette blague.
Mais c'est pas parce qu'ils étaient russes qu'ils sont morts, c'est vraiment. Enfin, si, mais c'est...
C'était l'armée russe, ouais, les soldats, l'armée russe.
Ouais, c'est les soldats.
Il y a un pays qui se battait contre un autre.
Mais tu sais que nous, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on pleure et sont en Israël les morts qui sont morts en 48, en 56, en 67, en 73, en 82, en 2006. Bien sûr. C'est un moment national. National.
C'est pas pour les mêmes raisons, c'est parce que...
Parce que...
C'est des soldats qui... C'est des soldats
je te parle des soldats morts en 48, 56, les dates que j'ai continuées, toutes les guerres d'Israël. Je parle des soldats. Qu'est-ce qu'il y a entre eux et les soldats russes? On va au moins un jour par année en Russie faire la commémoration, puis pas un truc politique, pas un truc juste... je sais pas, ils font un petit truc comme le monument aux morts, d'accord, le 14-18. Ça va, va voir ton copain maintenant français, Martin Dupont, d'accord. Tu le vois un peu déprimé. Qu'est-ce que t'as, Martin, de voir ça pour aujourd'hui? Tu vois une larme. Qu'est-ce que t'as? Il me dit Verdun. 400 000 morts en un mois. J'aurais pas une larme? 400 000 morts en un mois.
Ça enlève tout le goût de la mort. C'était des...
des avions. Des kilolitres de surhumaine 3.
Les avions, c'est pas c'est dans la tranchée, là-bas. Aucun avion là-bas, que je sache. En tout cas, tu ne verras pas un Français à qui ça fait un petit guili-guili aujourd'hui. À moins qu'il soit en déprime grave. Tu appelles le psy. Un juif, oui.
Un Américain aussi.
Et nous, un Américain. Je veux dire, un Américain aussi. Nous.
Dans les films, de la guerre.
Ouais, dans les films, les séries, c'est sympa, mais dans la réalité,
oui. Mais bien sûr,
ici. Ok, laisse-moi répondre, les Américains. Nous, mon cher ami, nous, on est assis un jour par année, par terre, en train de pleurer. Pour des événements qui ont lieu il y a 2000 ans. Pour 2000 ans d'exil de souffrance, on pleure par terre. Et pas un jour. Trois semaines auparavant, on commence déjà. Pas se coiffer, pas se couper les cheveux, pas manger de vin, pas de viande, pas se laver, machin, tout ça. Tu parles d'une mémoire qu'on a. Énorme. Je ne vais pas reprendre le terme que je dis toujours. Moi, j'ai ouvert un bouquin d'histoire il y a quelques temps, d'accord. J'ouvre, je vois 20 juifs ont été brûlés vifs à Rouen en 1180. Bon, ce n'est pas ma famille. On n'est pas français que je sache d'origine. Il y a 800 ans, j'en ai rien à faire. À Rouen, bon, je connais le nom de la ville. Je n'ai jamais été là-bas non plus. Ça fait un petit quelque chose. Pas grand-chose.
Absolument rien. Voilà.
Oui, t'as raison. T'as raison. Quel âge tu as?
J'ai 20 ans.
T'as 20 ans. À 20 ans, ça commence en toi. Un peu, c'est l'année chamin. Comme je l'ai expliqué maintenant, il y a une sensibilité à la Yechida. Elle ne vient pas rapidement. D'abord, on a Nefesh, on est animal, après on devient un peu rouard, après ça, on est un peu plus Nechama. Plus une personne, elle grandit spirituellement, plus elle devient amoureuse du peuple d'Israël.
J'espère que je vais garder mes larmes pour ma famille.
Ça, c'est le début, mais après, on grandit plus. On grandit plus aussi. Après, on devient Yechida, on devient quelqu'un de Klal Israël. Pour nous, Israël, c'est une seule entité. Tu vois, les grandes Torahs, ils ont une herpatiote, c'est leur important, le sort de juifs dans le monde, ils sont très 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 puissants. Ça, on ne se connaît pas, c'est important, on est la même entité. Alors je vous parlerai un petit quelque chose après, hein, qui a à voir avec cela. Étant donné que nous sommes un seul peuple, je vais raconter une histoire maintenant, une histoire que j'ai entendue.
Ouais, t'as pris un coup de dans le cou, je le porte pas dans mon cœur.
Alors il est où, lui? Il est là, il est où?
Je sais pas, il est là, surtout dans mon cou, quoi.
D'accord, mais là, c'est un grand Israël ou quelqu'un qui vient du bas d'Israël, t'es pris un couteau dans le cou?
Je sais pas, mais...
C'est un grand Israël, tu penses? Il a une barbe?
Non, mais je le haïs autant qu'un...
Il étudie la Torah?
Autant qu'un mec qui m'a mis un coup de dos, quoi.
Alors je t'explique maintenant que ce sont des gens qui sont, c'est pas du bas d'Israël, absolument, il y en a beaucoup. Tu as bien des capots, non? Les juifs capots, t'en avais?
Non, une barbe, je l'aurais eu autant, je pense.
Oui, mais je t'explique, il n'avait pas une barbe. C'est quelqu'un qui ne vient pas maintenant de la partie haute d'âme d'Israël, il vient de la partie basse d'Israël. Il faut comprendre qu'il y a une progression, je te parle de notre spiritualité, de notre âme, pas du corps. Il y a des gens qui sont au niveau du corps, donc ils sont comme des bêtes. Il y en a beaucoup, la majorité. Plus qu'on monte, plus il y a moins de gens qui sont top. Nous, on a fait de monter vers le top. Il faut que je vous parle de ça, pour que vous compreniez vers quoi on doit tendre. Il y avait un rabbin, on est un peu famille. Il s'appelle Rabbi David Yudayov. Zichron Levracha. Son fils m'a raconté qu'il dormait dans le salon. Et un jour, à 6-7 heures moins quart du matin, on tape à la porte, toc, toc, toc. Son père va ouvrir, son père a déjà prié au net. Et le type qui parle dehors ne rentre pas. Et les deux, pendant 20 minutes, ils partent comme ça à la porte. Et il m'a raconté, le fils, il entend son père dire, oui, Ken, 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 Ken. Bon, à la fin, il part. Bon. Et puis après un certain temps, son père lui dit, tu sais, mon fils, je vais te raconter une histoire. Une fois, il y avait un très grand décret sur Amisraël, et on est venu en rêve, je crois que c'est le rêve Ephraim HaKohen, c'était un des grands kabbalistes à l'époque, le père de Rachel HaKohen, le Rosh Yeshiva de Prat Yosef. Je ne suis pas certain des noms, je sais qu'il y avait le Kafahim après, en tout cas un des noms, je pense que c'était lui, Ephraim HaKohen. On lui a dit, voilà, écoute, il y a un grand décret sur Amisraël, dans le ciel, si toi tu pars, tu meurs, alors le décret est annulé. Écoutez, moi maintenant je m'occupe, j'ai acheté des Mekoubalim, tout ça. Allez voir le Kafahim, le Rav Yaakov Haim Sofer. Et le voir en rêve. Il dit, moi j'ai pas fini le Kafahim, j'ai encore deux volumes à sortir pour finir, laissez-moi terminer. Allez voir le troisième, j'ai oublié son nom. Le matin, ils vont faire la prière, et tout à coup, les deux se voient Kafahim, le Rav Haim HaKohen, ils voient le Kafahim. Ah, tu les as envoyés chez le troisième. Ils ont tapé. Messieurs, nous annonçons le décès de notre ami qui est mort subitement cette nuit. L'enterrement aura lieu aujourd'hui. Ils ont même pas, et tout d'un coup, on entend la rue, ça commence. Ils ont annoncé. Ils savaient déjà qu'il était mort. Ok. Quelques jours après, à l'espace de 10 jours environ, le Rav Yudayov raconte à son fils qui me racontait cela, hein, 3 fois la même histoire. 3 fois, la troisième fois, il dit, papa, ça va, tu me racontes, hein, pourquoi tu me racontes ça? J'ai expliqué, mon fils, tu dois savoir, quand du ciel, on demande à quelqu'un de partir, il faut accepter. 2-3 jours après, le Rav est décédé. Durant les 7 jours de deuil, qui vient consoler la famille, la veuve et les orphelins? Le rabbin qui était à l'entrée, qui avait toc, toc, toc. Il explique qu'il y avait un grand décret sur Israël et qu'il a dit ça au Rav Yudayov, et s'il a accepté, il a accepté qu'il fallait qu'il parte, il a accepté de partir pour expier les péchés d'Israël. Un type qui part comme ça, Gossan Tzadik, il peut sauver la vie de 500, 5000, 50 000 personnes. C'est énorme. Abbasan Abba Shaoul, il souffrait énormément à la fin de sa vie. Il avait un pouvoir de guérison des gens qui avaient le cancer. C'est guéri. C'est des trucs extraordinaires. 2 personnes, il les a levés de la chaise. Ils étaient immobilisés, paralysés. Tac, lève-toi, ils ont marché. Mais il payait pour ça. Il payait par souffrance. Un jour, le voir, voilà, je ne peux plus prendre. J'ai trop sur moi, je ne peux plus prendre. Donc la souffrance que quelqu'un endure, la plus forte raison, si quelqu'un donne la vie, sa vie pour cela, elle réagit, elle rejaillit, ce mérite rejaillit sur tout un Israël, peut sauver des milliers de personnes. Donc des fois, Hachem préfère faire partir un tzadik plutôt que 5000, Chassé Shalom, personnes qui ne sont pas tzadik. Baruch Adonai, l'homme va